Un moment pour la Terre, c'est tout de suite avec Paul et Maëlys. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
De France Nature Environnement, bien sûr. Si vous voulez vous présenter aussi.
Moi, c'est Paul. Je suis en service civique à France Nature Environnement depuis le 14 septembre. Et moi, je viens d'Orléans, un peu plus loin.
Moi, c'est Maëlys. Je suis aussi en service civique à France Nature Environnement, département des Alpes-de-Provence, depuis le 8 septembre. Et je viens de région parisienne. Et aujourd'hui, on vient pour parler d'un monde à plus 4 degrés.
Mais sans être alarmiste.
Donc, la COP30 sur le climat vient de s'achever à Belém. Et le bilan est à peu près COP d'habitude. Donc c'est un accord à minima avec aucune rupture nette sur les énergies fossiles, malgré quelques timides avancées. Le bilan carbone de cette COP est d'environ 297 vols de jets privés qui ont été réalisés pour cette conférence. Au total, ça équivaut à 4422 tonnes de dioxyde de carbone émis. C'est à peu près l'empreinte carbone de 491 Français par an. Et si on parle des habitants du Mozambique, qui est l'un des pays climatiques les plus vulnérables à la crise climatique, ça équivaut à 14 264 habitants.
Nous allons commencer par présenter l'association et donc aussi parler des dernières activités qu'on a eues là. France Nature Environnement, donc, c'est une fédération, nous on est le 04, la fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement. En tant que fédération, on a plusieurs rôles. On a un rôle de former, d'informer et de représenter des associations locales environnementales avec qui on adhère mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire porter la voix des associations adhérentes, donc auprès des pouvoirs publics, auprès des élus, des médias et d'autres représentants de la société civile. On fait partie du mouvement national de France Nature Environnement qui a été créé à l'origine en 1973. On agit depuis plus de 50 ans sur la défense de l'environnement, nous dans le département, et aussi beaucoup, on les remercie chaleureusement, l'implication des bénévoles, des jeunes en service civique, donc nous, et stagiaires et salariés de l'association.
Au quotidien, on participe activement aux différentes commissions consultatives départementales et aux débats publics qui sont relatifs aux enjeux environnementaux. On organise des animations auprès de tout public, scolaire comme grand public, comme des élus, afin de sensibiliser à la protection de l'environnement dans le département. On accompagne aussi les acteurs locaux, publics et privés, dans les changements de comportement et les changements d'habitude. Nous travaillons à la rédaction de plaidoyers pour défendre les intérêts de l'environnement, notamment dans les instances publiques. Et en bref, donc, nous sommes activement mobilisés sur tous les sujets et thématiques qui sont en lien avec l'environnement, que ce soit les énergies, les déchets, la santé, la biodiversité, les différents risques que ça représente, et plein d'autres thèmes encore. Donc, comme on l'a dit précédemment, nous sommes Maëlys et Paul.
Alors, de quoi parle-t-on? Réchauffement climatique ou changement climatique? Il y a souvent une guerre sur le choix des mots et des expressions, mais plutôt que de les opposer, on peut les représenter un petit peu, et pour comprendre ce qui les distingue, et afin d'avoir un langage à peu près commun. Alors, changement ou réchauffement?
C'est la question.
En fait, oui, c'est pas la même chose. Fondamentalement, la différence, c'est quoi?
Alors, pour moi, le réchauffement, c'est vraiment juste une hausse des températures, alors que le changement, ça implique aussi d'autres choses. Le réchauffement en fait partie, mais il y a également tout ce qui va être catastrophe naturelle, dont la fréquence va changer, etc.
Météo et climat, oui, se distinguent sur deux plans. D'une part, la météo est un phénomène chaotique qui a lieu surtout sur le court terme. Hein, c'est ce que l'on observe là, actuellement, dehors la fenêtre. Quant au climat, ça va être sur un plus long pas de temps, où là, par exemple, on peut prévoir des choses qu'on ne peut pas prévoir peut-être à l'échelle de quelques jours.
En effet, il faut bien faire attention à ne pas confondre météo et climat, c'est-à-dire qu'un jour donné, il va pouvoir faire froid, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas un réchauffement global des températures à une plus grande échelle de temps.
Alors, les deux sont quand même liés. parce que les deux, en fait, ont recours à ce qu'on appelle des modèles de prédiction, qui sont surtout fondés sur des probabilités, donc des mathématiques qui permettent de prévoir selon le pas de temps du jour, le pas de temps de la semaine, voire du mois. Enfin, en l'occurrence, pour les modèles climatiques, c'est plutôt de l'ordre des centaines, voire des milliers d'années. Mais bon, on ne peut pas encore prévoir aussi loin dans le futur, sachant qu'on ne sait pas encore ce qui va nous attendre dans 150 ans. Ces modèles de probabilité, ils prévoient différentes choses. Ils modélisent plusieurs choses.
Oui, ils modélisent donc, comme l'a dit Paul, le climat et la météo sur différentes échelles de temps. Mais il y a également des modèles qui existent sur les courants d'air, les cellules atmosphériques et les courants marins également, puisque dans l'océan, il y a plusieurs courants qui existent et qui sont modélisés. Mais nous, aujourd'hui, on vient vous parler d'un monde à plus 4 degrés. Alors, pourquoi on a choisi la température plus 4 degrés? C'est grâce à un rapport du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Et ce sont des experts qui viennent de 195 pays et dont le but est de synthétiser toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à présent sur le climat pour faire des prédictions et des
pronostics aussi.
Voilà, des pronostics, établir des conseils, notamment pour les politiciens et le grand public également, sur comment se préparer au changement climatique. Et donc, dans le sixième rapport du GIEC, il y a un scénario qui émet l'hypothèse d'une hausse des températures de plus 4 degrés en France métropolitaine. Donc ce scénario, il est basé sur un modèle complexe qui prend en compte les actions climatiques actuelles des gouvernements, mais également les habitudes de vie et tous les contextes socio-économiques. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas souvent relayé par les médias, puisqu'ils n'ont pas de chance au GIEC. À chaque fois qu'ils publient quelque chose, il y a un événement souvent beaucoup plus important qui a lieu ce jour-là, et donc leur rapport n'est pas relayé dans les médias. Par exemple, une fois, ils ont publié un rapport pendant que Lionel Messi entrait au PSG, et donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus important.
C'est beaucoup plus médiatique.
Aussi. Donc, le scénario de plus 4 degrés à l'horizon 2100, il est jugé réaliste et il est pris en compte par le gouvernement dans leur stratégie d'adaptation. Pour rappel, aujourd'hui, la France, elle est réchauffée de 1,8 degré contre 1,3 degré pour le monde de manière globale. Et donc, cette trajectoire des plus 4 degrés, c'est celle sur laquelle on va si les États continuent à faire leurs efforts climatiques. C'est donc une trajectoire plutôt optimiste.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on veut? Ben quoi, le climat? Ça y est, ça recommence, j'y crois pas. Leur truc à la noix. C'est la COP combien là déjà? Je suis perdu, je sais pas. Faut plus prendre de bain, oui c'est ça. Comment ça, je suis de mauvaise foi? Qu'est-ce qu'ils veulent ces types-là?
Je veux pas faire ma mauvaise tête, mais je trouve que c'est odieux qu'on me dise de limiter mes émissions de CO2. D'autant que je serais pas contre qu'il fasse un peu plus chaud. Et pensez pas qu'à votre gueule, moi je vis à Saint-Malo. Alors oui, ça me laisse froid.
Ben quoi, le climat? Oui, la terre se réchauffe, et ben quoi? Ça me concerne pas. Et c'est pas non plus Sarah. On se les pèle, tu trouves pas? En août, il a fait un peu froid. C'est bien la preuve que c'est n'importe quoi. Un complot des médias.
Qu'on vienne plus me parler de chute de biodiversité. Vu tous les moustiques qu'il y avait encore cet été. L'autre jour à la chasse, j'ai confondu une biche et une grand-mère. C'est peut-être ça qu'on appelle l'effet de serre. Ce jeu de mots-là, je l'assume pas.
Ben quoi, le climat? Vous connaissez que ce mot-là ou quoi? À quel cinéma? Tout ça pour sauver trois koalas. D'abord ils font quoi là? À bouffer peinard du soja. Ça c'est avec mes impôts à moi.
ça se passera pas comme ça.
Est-ce que quelqu'un se souvient de la COP21? Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était sous Jospin. Mais depuis, tout a changé, le monde est bien meilleur. Le PDG de Total a eu la Légion d'honneur. Je vais refaire le plein pour fêter ça.
Bah quoi le climat? Bah c'est pas de ma faute à moi, mais de celle des Chinois. Même si dans mon écran plat, il y a du lithium 23. Ça va l'écolo, calme-toi. On va pas en faire tout un plat. Retourne faire du yoga.
Ça part en live dans le Pas-de-Calais et au Maroc. Mais tant que c'est chez les pauvres, entre nous on s'en moque. Il faut cesser l'hystérie et savoir dire stop. Vu que c'est le mois sans tabac, je propose d'arrêter la COP. Mais qui c'est qui m'a écrit ça?
Bah quoi le climat? Ne parle même pas de Greta, ou tu le regretteras. On verra à la COP 53. Moi de toute façon je serai plus là. Alors à quoi je sers dans le débat? C'est que j'aime parler, oui c'est ça. J'aime le son de ma voix. Gna 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 gna.
Dans la partie précédente, on a bien distingué climat et météo. Climat sur un long terme, météo sur du court terme et surtout au moment où on parle. Les deux, en fait, sont construits à partir de modèles. Dans ces modèles, en fait, on avait les flux naturels d'un côté, qu'on a bien su modéliser depuis longtemps, mais ensuite les activités humaines, elles, on les a inclus parce qu'elles modifiaient beaucoup les flux de matière. Donc on parle beaucoup du CO2 parce que c'est le principal, il y a tous les autres éléments comme le phosphore, l'azote également. Alors, tout ça mélangé ensemble dans une grosse boîte qui s'appelle le GIEC, effectivement, ça donne notre scénario, plusieurs milliers de scénarios, et dont notamment un scénario en France à plus 4 degrés. C'est quoi les réactions du gouvernement et des officiels à ce sujet?
Alors, ne vous inquiétez pas, l'État est sur le coup, puisque depuis 2023, l'État s'organise autour d'une trajectoire qui est baptisée TRAC, pour trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc, dans ce scénario qui est pris en compte par l'État, la température moyenne en métropole serait d'environ plus 2 degrés en 2030, plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. L'objectif, c'est d'aider les territoires et les décideurs des services publics et autres à imaginer ce que serait la France à plus 4 degrés et à s'y préparer correctement.
Qu'est-ce que cela implique en pratique?
Concrètement, cela signifie que les décisions qui sont prises à partir de maintenant sont censées prendre en compte ce contexte d'adaptation aux futures températures. Il faudra donc repenser certaines infrastructures qui ne seront plus adaptées, comme par exemple les bâtiments qui sont trop vulnérables aux vagues de chaleur ou les réseaux d'eau qui sont mis sous tension et aussi les zones littorales qui vont parfois nécessiter un repli stratégique car mis en péril par ce changement climatique. Avec le changement climatique, les événements qui sont dits exceptionnels qui survenaient jusqu'à présent tous les 50 ou 100 ans pourraient devenir carrément annuels. Et donc, ça implique que nous aussi, dans notre vie de tous les jours, il va falloir qu'on s'adapte sur nos modes de vie et sur nos habitudes.
Quel document un peu cadre tout cela à l'échelle nationale?
Alors du coup, le gouvernement a élaboré aussi ce qui s'appelle le PNAC, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, qui prend en compte donc la trajectoire dont je vous ai parlé précédemment. Aujourd'hui, c'est le troisième plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié, et il a été publié en mars de cette année.
Quels moyens sont mis à disposition pour réaliser ces actions?
Donc, les moyens sont fortement limités, les moyens financiers notamment, puisque en 2025, il est prévu 590 millions d'euros. Mais les ambitions pour ce plan sont très supérieures. Et donc, pour la plupart des experts, ça reste quand même très insuffisant. C'est néanmoins un outil qui reste assez intéressant, notamment parce qu'il prend en compte cette trajectoire de plus 4 degrés à l'horizon 2100, et c'est quand même une première. Cependant, il doit rester couplé avec une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour un maximum de pertinence.
Alors maintenant, moi j'aimerais vous parler d'un thème qui fait la continuité avec mes études, qui est l'eau et les catastrophes naturelles. Donc, on a parlé météo et climat, et souvent l'argument qui revient, c'est par exemple la pluie. La pluie, en fait, elle a une fréquence et une intensité qui lui sont propres, et qu'on peut prévoir à une échelle climatique, mais ce que nous montrent les modélisations à l'heure actuelle, c'est que leur fréquence, d'une part, elle diminue, mais leur intensité augmente. Et ça, concrètement, ça a une traduction, c'est une traduction très concrète. Ça veut dire que des pluies plus intenses, plus éparses, seront à craindre dans les prochaines décennies. Maintenant, sans transition, connaissez-vous la mode ? Moi, j'aimerais vous parler d'une phrase qu'on entend beaucoup, par exemple, dans les documents officiels. On parle de résilience des territoires. Ce mot résilience, hein, c'est la capacité de revenir à un état antérieur après un choc ou un trauma. En aucun cas, ça voudrait dire endurer sans broncher. Les événements climatiques extrêmes, à l'heure actuelle, ont des conséquences humaines et matérielles graves. Et interroger leur résilience, c'est souvent présenté comme la capacité à revenir ou à lutter contre ces événements. En fait, la résilience pour une personne, puisque la notion vient à l'origine de la psychologie, c'est la capacité à se tricoter une personnalité saine et heureuse, en dépit de l'événement traumatique. Et donc, puisque le mot entre dans les plans gouvernementaux, soit par mode, soit par effet, se pose la question de ce que ce mot il peut signifier pour une société. Donc, par analogie. Dans le cas d'une catastrophe naturelle, si on parle d'inondation, il y a plusieurs cas de figure qui font école. Par exemple, on a souvent voulu canaliser les rivières, ériger des digues pour se protéger. Mais parfois, il y a des quartiers urbains dans des villes qui décident de faire tout l'inverse. Par exemple, à Romorantin, Lanthenay, il y a un quartier qui fait exemple. Au bord de la rivière, la Sauldre, des rues et des immeubles et les plans de ce quartier ont été dessinés d'après le chemin que suivent les crues de la rivière, fréquentes. Ainsi, il a été observé lors d'une crue survenue il y a moins de 5 ans que l'eau restait moins longtemps que d'autres quartiers touchés. Est-ce qu'une digue aurait suffi ? Sans doute, mais jusqu'à un certain point. L'autre exemple, un peu extrême et dramatique, c'est l'histoire de la faute sur mer, où on a eu le cas de l'eau retenue par la digue lors d'une marée haute. Donc avec ces deux cas, on peut montrer qu'il peut y avoir une autre attitude face aux événements qui risquent d'en traumatiser plus d'un ou plus d'une société. Mais ces solutions, on peut les comprendre de cette manière. Alors quand on parle de ces choses-là, en fait, on parle surtout des aménagements. Et les aménagements, en fait, doivent tenir compte de deux autres composantes, que sont les écosystèmes et les catastrophes naturelles.
À présent, une petite pause musicale.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
Dans la partie précédente, on a parlé des stratégies et des outils que les États mettaient en place pour incorporer la chose publique étrange qu'est le climat à l'heure actuelle. Et on a pu parler effectivement un peu dans l'optique des aménagements qui étaient faits pour lutter contre les catastrophes naturelles, sujet évidemment médiatique et fédérateur. Et désormais, on peut parler de la biodiversité des écosystèmes et de comment les intégrer en fait dans ces plans.
Et oui, parce que la nature, même si elle ne demande rien à la personne, elle déménage quand même avec le réchauffement des températures. C'est ce qu'ont observé le GIEC, le Muséum d'Histoire Naturelle et bien d'autres organismes qui ont fait des recherches sur la question. Ils ont identifié des tendances qui sont toutes les mêmes. C'est-à-dire que les espèces, que ce soit animaux ou végétaux, migrent plutôt vers le nord ou en altitude. Puisque, et oui, les arbres aussi arrivent à migrer. Alors, pas l'organisme lui-même, mais les populations d'arbres, et notamment l'emplacement des nouvelles pousses, montrent qu'elles sont toutes plus au nord, et les zones de répartition des espèces d'arbres sont aussi en train de migrer. Donc, avec cette question, on peut se demander quand est-ce qu'on aura des palmiers à Lille, puisque bientôt un paysage paradisiaque et sudiste à Lille, ce serait quand même chouette.
C'est vrai qu'on pourra prendre les cocktails dans des noix de coco coupées en deux.
Et oui, et peut-être Noël sur la plage, au bord de,
oh, de la Manche. Sans la neige et le Père Noël. Le Père Noël en short, ça ne rend pas très bien.
On observe aussi une réduction des habitats pour les différentes espèces, soit donc à cause des activités de l'homme, mais également avec le changement climatique qui notamment peut supprimer ou faire disparaître les zones humides, par exemple. Et on a aussi les cycles de vie qui se décalent. Par exemple, ça pose des problèmes pour les chenilles processionnaires. Tu connais, Paul ?
Je connais les chenilles processionnaires. Je connais aussi un événement qui est survenu il n'y a pas si longtemps, je le fais en cas. C'était l'été dernier, Alors, 2024, non pas 2025. C'était à Lyon. Les Lyonnais ont pu entendre des cigales qui, en fait, remontent la vallée du Rhône. Tu as parlé des cycles de vie des animaux. La cigale, en effet, c'est l'un des premiers insectes concernés. En fait, elle, elle a besoin d'un sol qui ne gèle pas en hiver pour faire son cycle dans la terre, qui peut durer plusieurs dizaines d'années. Et du fait que les températures baissent de moins en moins en hiver, des zones plus au nord, comme à Lyon, permettent aux cigales de s'épanouir désormais. Ce qui a pu surprendre plus d'un à l'époque. Vous pouvez retrouver l'article sur France Info.
Tout à fait, merci Paul.
Et les chenilles processionnaires.
Et du coup, les chenilles processionnaires, qui sont mangées par des oiseaux, ne sont plus prédatées, puisqu'elles arrivent trop tôt par rapport aux oisillons. Et donc, la pression de prédation est moindre. Je ne sais plus si on l'a dit, mais je le rappelle au cas où, la biodiversité, c'est la diversité du vivant. Donc ça comprend les plantes, les animaux, les bactéries et tous les autres organismes auxquels on peut penser. Et cette biodiversité, elle est en équilibre et il y a plein d'interactions entre tous ces êtres vivants dans un lieu. Et donc tout ça, ça forme les écosystèmes. Et avec ces changements de cycle de vie, etc., ça met un peu la pagaille dans les écosystèmes qui, du coup, deviennent moins résilients. Et donc, ça fait un peu un effet boule de neige et avalanche, puisque les écosystèmes nous aident en partie à réguler le climat, mais s'ils ne fonctionnent plus très bien, bah, ils nous aident moins. Et donc, le changement climatique est d'autant plus important. Le changement climatique et les migrations d'espèces, ça peut aussi faire apparaître dans certains écosystèmes les espèces invasives, qui sont de gros problèmes, puisqu'elles sont très dures à enlever d'un écosystème une fois qu'elles s'y sont installées. Ça pose notamment des problèmes pour la faune et la flore qui est endémique. En bref, la biodiversité, comme nous, elle doit s'adapter et se réorganiser à ces changements climatiques. Sauf que, je ne sais plus, Paul, si on l'a dit, mais le changement climatique, comme tu avais dit, c'est lié à des facteurs naturels, mais les activités anthropiques font que sa vitesse est beaucoup trop rapide pour que les espèces puissent s'adapter correctement. Donc, petit mot pour les hérissons, puisque le logo de France Nature Environnement, ce sont des hérissons.
On les salue.
Si vous voulez aider les hérissons, il faut donc limiter vos émissions de gaz à effet de serre pour que ça puisse limiter le réchauffement climatique.
On va maintenant arriver à la conclusion de cette émission. On a parlé de beaucoup de choses et je propose qu'on parle de la météo. Actuellement, dehors, il fait un grand ciel bleu et un froid hivernal. Faites gaffe au risque de verglas. C'est attention pour la voiture. Et on a parlé de beaucoup de choses assez graves, assez lourdes. Mais sachez-le, il y a quand même quelques petites sources de réjouissance dont on aimerait beaucoup vous parler. Vous pouvez retrouver la plupart des informations utiles sur le changement climatique et l'action de l'homme avec un excellent livre qui a été écrit par Bonneuil et Frézos, qui s'appelle « L'événement anthropocène », paru il y a moins de 10 ans. Et les bonnes nouvelles, je tiens quand même à noter que dans la Provence, du 19 novembre, un dossier de 16 pages a été dédié aux solutions déployées partout en France sur le bien vivre ensemble. Vous ne savez peut-être pas, mais en tant que service civique, l'une de nos missions, entre autres, c'est de faire la revue de presse, une activité qu'on fait tous les matins avec force et motivation.
Enthousiasme.
Absolument, enthousiasme. Et je peux vous assurer que ça faisait du bien de lire un dossier qui parlait de bonnes nouvelles, parce qu'elles existent et il faut savoir les voir. Et ça fait du bien aussi de les rencontrer.
Pour conclure ce petit mot, donc un monde à plus 4 degrés, ça a créé quand même beaucoup de problèmes, mais c'est pas fixé, on peut encore agir. Et c'est l'important qu'il faut retenir, il faut pas être pessimiste sur ce scénario. Et il faut se dire qu'on peut toujours agir et que chaque petit geste compte.
Pour faire un parallèle avec le cinéma, ce n'est pas parce que le scénario est mauvais que le jeu d'acteur le serait forcément.
Exactement, Paul. Et donc, une des choses que vous pouvez faire, c'est vous engager, donc par exemple auprès de France Nature Environnement, mais pas que. On va vous parler un peu des événements qui sont à venir dans l'association. puisque vous n'êtes sûrement pas sans savoir que cette semaine, c'est la semaine européenne de réduction des déchets, qui a commencé le 22 novembre et qui va se terminer le 30 novembre. Donc la CERD, pour les intimes. C'est une initiative européenne pendant laquelle de nombreux acteurs se mobilisent pour sensibiliser à la préservation des ressources et à la réduction des déchets, et notamment la production de ce qui pourrait devenir des déchets. Nous avons organisé notre restitution de résultats du projet Zéro Plastique Endurance, mais nous serons également présents dans deux collèges du département pour animer des stands sur la réduction du gaspillage alimentaire. Le Black Friday, c'est aussi l'occasion pour nous de vous rappeler que réduire ses déchets, c'est aussi faire attention à sa consommation. Pour produire moins de déchets, il faut consommer moins et réfléchir avant d'effectuer chaque achat.
Et pour les habitants de Pierrevert, vous pouvez nous retrouver à la salle de la Frache pour un atelier sur le chemin de l'eau avec une balade dans le village pour comprendre la ressource, la biodiversité, les zones humides, ainsi que la gestion du risque d'inondation et du ruissellement. Et cet atelier, qui s'inscrit dans notre projet de renaturation avec la ville de Pierrevert, permettra d'élaborer, avec cette concertation citoyenne, un plan pour les aménagements. Le dimanche 7 décembre, au mai, à côté du marché de Noël, nous organisons une projection ciné-débat sur le film documentaire « Le vivant qui se défend » réalisé par Vincent Verza. Et nous vous donnons rendez-vous à partir de 16h15. Vous pouvez venir avec vos vins chauds et vos churros si vous voulez.
Notre campagne de dons va également débuter puisque les fêtes de fin d'année sont aussi le moyen de soutenir les associations. Aujourd'hui, nous avons des financements pour nos projets, mais nous aurions quand même besoin de votre soutien pour défendre les intérêts de la nature. Donc, vous pouvez devenir justicier de la nature à nos côtés et nous aider à faire gagner la nature. Si vous êtes intéressé pour des missions de bénévolat ou par nos événements, etc., vous pouvez nous contacter ou consulter notre site internet. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous et très bonne journée.
Très bonne journée, à bientôt.
Merci Paul, merci Maëlys, service civique de France Nature Environnement 04. Bravo pour cette émission, cette première pour vous donc. et puis pour ces informations importantes sur le changement climatique. Bonne journée à vous. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.